tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui dans le coq chante, nous allons vous parler de la situation alimentaire et nutritionnelle catastrophique que vivent les populations de la République centrafricaine suite aux affrontements post-électoraux. On va d'abord situer le contexte dans ce pays d'Afrique centrale. La République centrafricaine dispose d'une grande diversité d'écosystèmes qui lui permettrait d'accueillir une large gamme de cultures destinées au marché intérieur, c'est-à-dire des céréales, racines, tubercules, bananes, plantains, oléagineux, légumes, canne à sucre, ou à l'exportation, c'est-à-dire caféiers, cacaoyers, colatiers, poivriers, cotonniers, tabac. De bonnes terres, une bonne pluviométrie, des cours d'eau un peu partout, voilà donc un pays qui a tout pour réussir dans la production agricole. Mais du fait de la faible densité démographique et d'un outillage agricole rudimentaire, moins de 5% des terres aptes à la mise en culture seraient cultivées annuellement, soit quelques 700 000 hectares. Résultat de cette situation, le taux de malnutrition chronique avoisine les 30% contre 4% pour la malnutrition aiguë sévère. Ce que nous venons de décrire, c'est la situation d'ensemble en République centrafricaine depuis les indépendances nationales. Et comme si cette situation n'était pas déjà suffisamment grave, voilà que des troubles post-électoraux ont conduit à des affrontements armés qui ont complètement désorganisé le système d'approvisionnement des populations. Au téléphone, nous avons discuté de cette situation avec Madame Mathilde Lambert, qui est directrice d'Action contre la faim en République centrafricaine.
Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Donc je suis la directrice pays de la mission de Action contre la faim en République centrafricaine. Une équipe qui est composée de 450 personnes. On est présent en République centrafricaine depuis 2006. Et aujourd'hui, on est positionné dans différentes villes du pays, notamment à Bangui, à Boire, à Bossangoa et à Alindao. Et on a également une base d'urgence qui peut se déployer dans l'ensemble du pays.
Vous m'avez dit que vous avez deux types d'actions en République centrafricaine, c'est-à-dire des actions d'urgence et des actions de développement. Alors, on va commencer par les actions d'urgence.
Comme je le disais, nous, on fait partie du mécanisme RRM, donc Rapid Response Mechanism.
Ça veut dire quoi, RRM?
Mécanisme de réponse rapide.
D'accord.
Donc l'idée est en fait pour nous de suivre les mouvements de population. Donc quand il y a des affrontements dans une zone ou même ne serait-ce que des rumeurs d'affrontements, les populations vont se déplacer massivement en abandonnant derrière elles tout ce qu'elles peuvent avoir, que ce soit leur champ, leurs outils, que ce soit leur cheptel aussi bien souvent, et donc vont se déplacer massivement en emportant uniquement le strict nécessaire.
Attendez, Madame Lambert, je vais voir si je comprends la situation. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements, ou en tout cas, il y a des rumeurs qu'il y aura des affrontements. Les populations se déplacent sans avoir récolté et vont là où il n'y a rien.
Exactement.
Ah oui, là c'est difficile.
Donc on essaye de suivre ces mouvements de population, donc on a un mécanisme de veille pour que des points focaux au sein des communautés nous signalent tout type de déplacement. Et donc ensuite, on va se rendre sur place pour faire des missions exploratoires et des évaluations multisectorielles pour voir quels sont les besoins de ces populations.
Donc, dans un premier temps, évaluer les besoins des populations, ce qui n'est pas sans risque dans un contexte de guerre. Ensuite, on fait appel aux partenaires qui opèrent dans la zone concernée. Si ses partenaires ne peuvent pas faire face, Action contre la faim intervient pour distribuer des ustensiles parce que les familles sont parties sans rien, des vivres, de l'assainissement pour que les gens aient accès à des latrines, l'approvisionnement en eau potable, et aussi apporter un appui psychosocial pour aider les gens à faire face au traumatisme.
Eh bien, nos équipes se déploient donc avec un chef de projet qui est un psychologue clinicien. Nous avons au sein de nos équipes des travailleurs psychosociaux qui vont sur des protocoles en 6 séances pour les adultes et 5 séances pour les enfants. Il va y avoir ce qu'on appelle une psychoéducation en premier lieu. Donc pour signifier aux personnes voilà, quelles sont les manifestations du stress, les manifestations du traumatisme. Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Est-ce que vous avez des flashbacks? Est-ce que vous pleurez souvent? Ce genre de choses. Et s'il est identifié que les personnes effectivement souffrent de syndrome post-traumatique, on leur propose ce protocole de prise en charge. Donc comme je le disais, c'est un protocole en 6 séances où on va traiter à chaque séance. Ça va être première séance, comment c'était avant le choc. Ensuite, ça va être une séance pour voir qu'est-ce qui s'est passé au moment du choc. Ensuite, de réfléchir ensemble à quelles sont les personnes support autour de moi, sur qui je peux m'appuyer. Et ensuite de travailler à quel futur je vois et de pouvoir appréhender la suite avec un peu plus de sérénité.
Ça, c'est les actions d'urgence. Maintenant, les actions de développement.
Sur les actions de développement, on va travailler beaucoup en sécurité alimentaire, notamment. Ça va être la promotion des filières agricoles porteuses, par exemple, telles qu'on a identifié dans le nord du pays le manioc, l'arachide, le sésame ou encore le miel. Et le principe, c'est un petit peu, pour utiliser cette expression, de la fourche à la fourchette. Et tout ceci en suivant une approche agroécologique. On va aussi essayer d'accompagner les acteurs de la recherche et de la formation qui sont déjà dans le pays pour essayer de résoudre des problèmes les plus pressants. Par exemple, on a pu constater que le manioc souffre d'une maladie, ici qu'on appelle la mosaïque du manioc. Donc essayer de comprendre quelle est cette maladie et comment on peut l'enrayer.
Alors, on a parlé de 2,3 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ça, c'est en temps normal.
Donc, effectivement, c'est pour 2021, le chiffre, c'est effectivement 2,8 millions de personnes qui sont confrontées à de multiples besoins essentiels, sur une population totale de 4,6 millions de personnes.
C'est-à-dire plus de la moitié de la population.
Tout à fait. La République centrafricaine a toutes les conditions physiques et agroclimatiques pour être un grand producteur de nourriture. Et pourtant, presque la moitié de la population va se coucher avec la faim au ventre. On a effectivement une superficie de 623 000 km² pour seulement 4,8 millions de personnes, ce qui est une des plus basses densités au monde finalement. On a, comme vous le disiez, des précipitations qui sont entre 800 et 1800 mm de pluie en moyenne par an. Donc on a de la terre, on a de l'eau, le pays ne manque pas de soleil. Et pourtant, on constate que la situation alimentaire est extrêmement préoccupante.
Et ça, c'est chaque année.
Exactement.
Donc vous dites que le pays importe des vivres.
Oui, tout à fait. Le pays dépend des importations de nourriture.
Ce que nous venons de voir, c'est la situation alimentaire et nutritionnelle au quotidien. Puis les affrontements armés viennent compliquer les choses, avec blocage des principales routes d'approvisionnement des grandes villes comme Bangui, hausse du prix des denrées alimentaires sur les marchés, déplacements et difficultés d'accès aux populations, et tout cela inquiète très fortement pour l'avenir.
Tout à fait, oui. Qui nous préoccupe énormément. On a vu que suite à la tenue des élections présidentielles, on a vu de nombreux affrontements qui ont pu avoir lieu dans différentes villes du pays ou sur les axes routiers, qui rendent complètement impossible toute action humanitaire, ou en tout cas qui rendent les choses extrêmement difficiles pour nos actions et pour la population. Donc on a énormément de nouveaux phénomènes de déplacement. Là, à l'heure où je vous parle, c'est 60 000 nouveaux déplacés à l'intérieur de la Centrafrique en quelques semaines et 60 000 nouveaux réfugiés dans les pays voisins notamment la République démocratique du Congo, comme je le disais, en l'espace de quelques semaines. Il faut bien comprendre que ces personnes, quand elles ont des rumeurs que des affrontements arrivent ou qu'il y a des affrontements dans la ville, elles se réfugient bien souvent pour la province, en tout cas en brousse, sans rien emporter. Et du coup, elles se retrouvent sans aucun moyen de se sustenter, de nourrir leur famille, et adaptent des mécanismes assez néfastes pour leur santé qui va être de passer à éventuellement un seul repas par jour, de vendre leur cheptel et leur bétail qui représentent leur épargne pour survivre quand elles ont réussi à les emporter, ce qui est bien rarement le cas malheureusement.
Il y a d'autres problèmes. J'ai lu quelque part que ces affrontements font que les axes routiers sont bloqués et qu'on ne peut pas faire d'importation de vivres.
Tout à fait, oui. La route MSR1 qui part de Garoua-Boulaye au Cameroun jusqu'à Bangui est à l'heure actuelle complètement bloquée. Pour vous donner un petit exemple, dans la ville d'Alindao, en janvier, le prix de la viande et du maïs ont doublé déjà. Donc on est extrêmement inquiet pour la suite parce qu'il n'est pas évident que cet axe soit réouvert bientôt. Donc on va certainement avoir à faire face à des prix qui vont flamber et à une absence de nourriture sur les marchés.
Non seulement les prix augmentent, mais en plus, les populations ont fui sans rien emporter, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de quoi acheter.
Tout à fait, oui. Elles partent sans aucune ressource et du coup se retrouvent dans une situation extrêmement préoccupante. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que la préparation de la campagne agricole et la préparation des champs devrait commencer en février 2021. Il est absolument primordial que les personnes puissent, et les agriculteurs et les cultivateurs puissent avoir accès à leurs champs pour commencer cette campagne. Il faut qu'ils reviennent et qu'ils n'aient pas perdu tous leurs outils, qu'ils aient les moyens d'acheter les semences nécessaires à cette campagne agricole 2021.
Ah oui, parce que les semences aussi, on les a mangées.
Potentiellement, oui, ça peut être un mécanisme assez néfaste d'adaptation, mais ça arrive, oui, tout à fait.
Une autre question qui préoccupe les spécialistes de ces questions alimentaires, la sous-nutrition des enfants. Selon la FAO, 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique. En réalité, on devrait parler de sous-nutrition mère-enfant.
On est extrêmement préoccupé par ça également, parce qu'on a des mamans qui ne veulent plus se rendre dans les centres de santé parce qu'elles ont peur de se déplacer tout simplement. Et donc les enfants malnutris et du sévère ne peuvent plus bénéficier des soins que Action contre la faim pourrait leur apporter.
Attendez, oui. Je vais voir le schéma. Monsieur est soit mort dans les combats, soit pourchassé. Madame s'est déplacée toute seule avec les enfants.
Tout à fait.
Elle arrive, elle est complètement démunie. Et la mère déjà souffre de sous-nutrition. Bon. Et elle doit s'occuper des enfants en plus.
Elle doit s'occuper des enfants en plus, en étant elle-même en souffrant potentiellement de troubles psychologiques qui rendent très difficile la prise en charge des enfants. Et si elle a des enfants malnutris, il y a toujours cette question. S'il y en a un de moins de 5 ans qu'on doit emmener au centre de santé, qu'est-ce qu'on fait des autres enfants?
Et comment vous faites?
Dans ces cas-là, on ne peut que malheureusement attendre, essayer, si nous avons accès aux populations, de faire du dépistage via des relais communautaires que nous avons formés pour essayer d'aller voir ces mamans, pour essayer de les convaincre de venir au centre de santé, à minima, venir prendre le traitement la journée si elles ne veulent pas rester la nuit.
Et tout cela a forcément des conséquences physiologiques sur les enfants, y compris futurs.
C'est pour ça qu'on est extrêmement inquiet de tous ces enfants malnutris et du sévère qui sont dans la nature et qui ne viennent plus dans les centres de santé pour prendre leur traitement.
Attendez, Madame Lambert, là vous avez employé un mot, il faut que vous nous expliquiez ça. Il y a la malnutrition, il y a la malnutrition aiguë, et là vous avez parlé de malnutrition aiguë sévère.
Nous, Action contre la faim, nous prenons en charge les enfants malnutris aiguë sévère, ceux dont la vie est le plus à risque, qui vont venir une fois par semaine dans des UNTA, donc ce sont des unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires. Et donc là, on va leur donner, on va faire les tests, on va voir dans quel état ils sont. Et en fonction, on va leur donner ce qu'on appelle du plum peanut, qui est l'équivalent du beurre de cacahuète, si vous voulez, qui est extrêmement enrichi et qui va leur faire reprendre du poids le plus rapidement possible. Et puis, on va s'occuper des mamans, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent avoir des difficultés à s'occuper de leurs enfants. Et donc, on a des équipes de travailleurs psychosociaux qui s'occupent de la pratique de soins et qui vont appuyer les mamans pour renouer le lien avec leur enfant qui est malade. Et bien souvent, il faut être conscient que les mamans n'identifient pas que leur enfant souffre de malnutrition et ne savent pas quoi faire. Donc, leur expliquer cette maladie, puisque c'en est une, et leur expliquer comment s'occuper de leurs enfants, comment jouer avec eux, comment recréer ce lien.
Bon, maintenant, dans notre entretien, vous avez parlé de quelque chose qui, moi, m'interpelle personnellement. La saison agricole doit commencer en février, c'est-à-dire dans moins de 10 jours. Et je ne vois pas comment la situation pourrait s'arranger pour que les populations reviennent dans leurs champs.
Alors, ce qu'on voit à l'heure actuelle, les populations partent en brousse ou dans leurs champs se cacher, attendent de voir comment la situation évolue et ensuite reviennent. Donc on a espoir, si la situation s'améliore, que les personnes puissent revenir dans leur village, dans leur maison, et puissent essayer de commencer la saison agricole. Mais il est primordial que la situation se calme.
Alors, quelles sont vos préconisations? Parce que là, ce que vous décrivez, c'est effrayant.
Donc c'est pour ça que le comité de coordination des ONGI en République centrafricaine, le CCO, dont ACF est membre, a publié un communiqué demandant aux différentes parties prenantes au conflit de maintenir l'accès humanitaire, la protection des civils et surtout et aussi la libre circulation des marchandises essentielles à la survie de la population.
C'est-à-dire, voilà, on va voir le schéma. Le gouvernement est occupé au combat, les rebelles sont occupés au combat, c'est-à-dire que plus personne ne s'occupe de ces populations. Vous, comité d'ONG qui intervenez, vous ne pouvez plus à cause de la situation. Est-ce que je résume bien?
Vous avez très bien résumé, oui. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que les différentes parties prenantes au conflit nous laissent, nous les humanitaires, accéder aux populations de façon à pouvoir les appuyer. Parce que ce sont des populations, comme on l'a dit, qui étaient déjà très vulnérables avant ces événements, qui vont le devenir encore plus. Raison pour laquelle nous sommes inquiets. Et raison pour laquelle nous exhortons les différentes parties prenantes à maintenir cet accès humanitaire, à maintenir la protection des civils et à assurer la libre circulation des marchandises.
Et qu'est-ce que ces différents acteurs ont répondu à votre communiqué?
Pour le moment, comme vous le disiez, je pense qu'ils sont plus occupés au combat que de la potentielle situation humanitaire. La situation est assez compliquée.
Madame Lambert, je pense que... Est-ce que c'est pas mieux qu'on arrête comme ça? Parce que là, ce matin, vous avez plombé l'atmosphère.
Il faut garder un optimisme pour pouvoir continuer à intervenir. C'est primordial.
Je vous remercie.
Je vous remercie également. Bonne journée.
Bonne journée. Nous étions en compagnie de Madame Mathilde Lambert, qui est directrice d'Action contre la faim en République centrafricaine. Cette spécialiste de terrain nous expliquait la situation alimentaire et nutritionnelle catastrophique que vivent les populations de la République centrafricaine suite aux affrontements post-électoraux. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Biedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission, Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
De l'Europe, Daniel Desesquelles.
Ce dimanche, retour